Marie-Pierre Bousquet, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes auteur, en compagnie de Robert Crépeau, du livre « Dynamique religieuse des Autochtones des Amériques », publié aux éditions Cartala. Et vous dites que jusqu'à tout récemment, on croyait que les religions amérindiennes étaient presque complètement éteintes à cause de l'effet néfaste des religions des pays colonialistes sur les sociétés amérindiennes. Et vous vous êtes rendu compte, à travers vos études, que ce n'est pas exactement comme ça.
En fait, la situation, ce n'est pas qu'elle ait grandement changé. C'est surtout que, en interrogeant les gens et en regardant de plus près leurs pratiques et le sens qu'elles ont pour les personnes, on se rend compte que ce qu'on croit être purement du catholicisme, du pentecôtisme et autres, eh bien, ça, c'est pas uniquement ça pour les gens qui les pratiquent. On part parfois de l'idée que nous, comme société, on a vécu comme une perte, comme quelque chose de néfaste, comme quelque chose qu'on vit mal et que c'est partout pareil. Eh bien, si on change un peu le regard et qu'on essaye de comprendre mieux du point de vue des Amérindiens et pas uniquement de notre point de vue à nous, on s'aperçoit que on n'est pas uniquement dans la perte, dans le néfaste. La religion, c'est pas uniquement l'opium du peuple, si je puis dire.
Donc, qu'est-ce que vous avez constaté en termes de cohabitation de différents systèmes religieux? De quelle religion parle-t-on?
Si on regarde au Québec, par exemple, la majorité des Amérindiens se disent chrétiens, alors de différentes allégeances, des catholiques, des pentecôtistes, des anglicans, avec une majorité de catholiques. On a aussi d'autres mouvements qui sont présents, des mouvements évangéliques plus minoritaires, mais également témoins de Jéhovah et autres. Et on a aussi des pratiques de ce qu'on appelle en anthropologie la spiritualité pan-indienne. Mais en fait, si on regarde de plus près, les gens... Bon, parfois vont se définir avec une allégeance particulière, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être uniquement dans un seul courant. Il va y avoir un va-et-vient. Et donc quelqu'un qui pourra, par exemple, se dire ouvertement pentecôtiste, va parfois avoir des pratiques qui, normalement, ne sont pas permises chez les pentecôtistes. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une mixité beaucoup plus grande et que, au lieu de voir ça comme des contradictions, ce qui serait notre première réaction, c'est de se dire, maintenant, il faut se mettre du point de vue de la personne qui, elle, ne voit pas ces contradictions-là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a vraiment des continuations d'anciennes croyances qu'on pensait complètement disparues.
Vous dites dans le livre que le chamanisme devient la clé pour comprendre comment le christianisme est vécu par les différents peuples amérindiens. Pourquoi?
Déjà, il faut savoir un peu ce qu'est le chamanisme. Le chamanisme, ça implique une croyance déjà entre le fait qu'il y a le monde réel dans lequel on vit et un autre monde qu'on va appeler, pour en français, parce qu'on n'a pas vraiment d'autres termes, un monde de la surnature, du surnaturel, et qu'il y a des possibilités d'échange entre les deux. Si on regarde d'ailleurs parfois les différentes religions chrétiennes, on n'a pas une si grande différence de conception que ça. On a des similitudes, le fait qu'il y ait un au-delà. Dans le chamanisme, il y a des possibilités de communication. Et donc, on va agir sur l'autre monde pour en avoir des bienfaits. Par exemple, quand on chasse, parce qu'au départ, le chamanisme, ici, c'est d'abord des pratiques qui sont liées à la chasse, à la vie quotidienne, quand les Amérindiens vivaient encore principalement de ça. Et puis, ces pratiques-là, elles peuvent continuer. C'est-à-dire que si vous regardez dans le pentecôtisme, il y a aussi pas mal la croyance qu'on peut faire intervenir, disons, dialoguer directement avec Dieu par la pratique, donc un échange direct. Alors, de ce côté-là, vous avez des similitudes et des possibilités de dialogue entre les différents systèmes religieux.
Vous mentionnez aussi le fait que différentes communautés autochtones ont tissé des réseaux qui sont parfois inattendus. Donc, il y a le cas des Atikamekw de la Mauricie qui ont établi des liens d'échange avec les Ojibwé des prairies. Aussi, le cas d'un chaman d'Amazonie qui est venu accomplir des cérémonies de guérison spirituelle pour contrer le suicide chez les jeunes Amérindiens du Québec. C'est quand même intéressant de voir ces réseaux internationaux qui se forment.
Mais je pense qu'il y a une grande curiosité, une grande ouverture, et puis il faut aussi voir que les différents peuples autochtones à travers le monde ont des expériences communes qui déjà, malgré leur grande diversité culturelle, ces expériences communes les rapprochent. Hein, et tous les peuples autochtones ont vécu des choses similaires. Ils ont vécu la dépossession, ils ont vécu la colonisation, Ils ont vécu les évangélisations tout à fait forcées, parce que c'était vraiment des entreprises qui ont participé au projet étatique de colonisation. Et donc, ils ont des bases de dialogue tout à fait communes. Alors, même s'ils n'ont pas du tout forcément les mêmes rituels, il y a un fond commun historique et social qui fait qu'il y a ce dialogue qui passe notamment par les pratiques religieuses.
Il y a aussi dans le livre la question du rituel. Vous dites que pour eux, le rituel est en fait plus important que l'orthodoxie de la croyance.
Oui, parce qu'en fait, on peut choisir différentes approches en recherche. Soit on va regarder le contenu même de la croyance, soit on va regarder le sens qu'elle a. Et en fait, dans notre équipe de recherche, on ne s'est pas du tout préoccupé de savoir, bien sûr on l'a regardé, mais ce n'était pas ça qui a retenu notre attention, à savoir si oui ou non, quand les gens, par exemple, se disent catholiques ou pentecôtistes, est-ce que ça correspond à l'orthodoxie de la religion. Ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout qu'est-ce qu'ils font vraiment. Et c'est pour ça qu'au départ, bon, je reviens à une question que vous m'avez posée un petit peu plus tôt, où nous pensons que le chamanisme, c'est aussi une réponse clé pour comprendre tout ça. C'est le chamanisme comme étant la science de l'existence des gens. C'est-à-dire que c'est un système de pensée qui n'exclut pas du tout les autres. L'important, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et si ça marche pour moi, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour les autres. Mais c'est une manière de penser le monde qui fait que on va adopter un rituel, par exemple, parce que par vérification empirique, on voit que ça marche. Si ça marche pas, eh bien, on l'adopte pas. C'est pas important que ça vienne du catholicisme, du pentecôtisme ou autre. C'est est-ce que ça marche pour les gens. Alors parfois, d'ailleurs, on rencontre quelqu'un qui est officiellement un catholique convaincu depuis 30 ans, ça ne veut pas dire que dans les 10 années suivantes, il va le rester. Parce qu'il va se dire, bah tiens, ça a marché pour moi un moment dans ma vie, puis maintenant ça ne marche plus. Alors il va adopter autre chose.
Dans les cas de la canonisation de Kateri Tekakwitha, par exemple, en 2012, les représentants autochtones se sont rendus à Rome et il y en avait qui voulaient promouvoir le retour à la spiritualité traditionnelle tout en canonisant Kateri Tekakwitha. Et vous dites qu'il ne s'agit pas là d'un retour nostalgique à un passé révolu, mais d'une actualisation des traditions.
Non, totalement. C'est vraiment totalement inscrit dans l'actualité, dans la vie moderne, c'est pas uniquement pour aller chercher du passé, pour transmettre. C'est beaucoup plus que ça. C'est parce que ça a un sens aujourd'hui et pour l'avenir.
Professeur Marie-Pierre Bousquet, co-auteur de l'ouvrage Collectif Dynamique Religieuse des Autochtones des Amériques, publié aux éditions Cartala. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Un grand merci à vous.